En route vers l'Ouest, cher Emmanuel, et bienvenue à bord de la caravane, chers auditeurs. Cette semaine, nous allons chevaucher à travers les plaines et les déserts, éviter les coups de fusil et en donner un certain nombre aussi, défier la loi et imposer la nôtre. Nous serons impitoyables envers les affameurs et engagerons une poursuite infernale à la recherche de l'homme des vallées perdues. Philosophie du Western, c'est parti.
Les États-Unis ne sont pas seulement un endroit où l'on trouve un emploi, c'est un lieu où l'on recommence sa vie. Cette idée renvoie au tout premier rêve américain tel que j'ai tenté de le décrire et au cœur duquel se niche l'idée de nouveau départ. Certes, le rêve économique est là. On peut améliorer sa situation financière et sa condition matérielle. L'Amérique est aussi un lieu vertueux. On peut y vivre à la fois dans la liberté et sans souillure. C'est là un autre mythe. Mais au centre de tout se trouve le mythe qu'il est possible de recommencer sa vie et de redevenir un enfant. La fontaine de jouvence. C'est quelque chose de très fort. Et ça marche. Ça marche vraiment. Parce que si vous voulez recommencer, il vous faut tuer le passé. Or, les Américains sont très doués pour tuer le passé. C'est la raison pour laquelle un si grand nombre de nos films et romans préférés parlent d'acquérir une nouvelle identité, de transformer nos vies. Cap à l'ouest, jeune homme. Cap à l'ouest, jeune fille. Pars vers le sud. En route vers les territoires. Ou alors il s'agit de changer l'identité, de rejeter le passé et de devenir quelqu'un de nouveau. Pas nécessairement un personnage puissant, même si en Amérique c'est toujours possible, mais un personnage nouveau. Les romans et les films sur la traversée des grands espaces ne parlent que de ça.
C'est vrai ça, Laurent Van Hayne, bonjour.
Bonjour Adèle Van Rijt.
Les films sur la traversée, les romans sur la traversée des grands espaces ne parlent que d'une chose, la possibilité de devenir quelqu'un d'autre.
Oui,
c'est Russell Bank qui le dit.
Oui, tout à fait. La possibilité d'inventer aussi, de s'inventer soi-même, on le verra sans doute en parlant d'Anthony Mann, mais aussi d'inventer un vivre ensemble. Je crois que la manière dont l'art westernien investit et répète au fond la conquête de l'Ouest, c'est surtout une manière de méditer sur la possibilité d'un vivre ensemble qui est sans cesse en évolution, sans cesse en train de se réinterroger et de se projeter à nouveau, de réinventer effectivement une vie sociale au fond.
C'est intéressant parce que lorsqu'on parle de western, généralement on pense au cow-boy qui est l'homme seul par excellence et vous nous parlez de vivre ensemble.
Oui, tout à fait. Mais je pense que la meilleure manière de réfléchir sur le vivre ensemble, à un moment donné, c'est de s'isoler dans un western comme ailleurs. Et la réflexion que l'on peut avoir dans l'art westernien sur le devenir d'un sujet individuel est toujours liée, me semble-t-il, je vois pas de contre-exemple immédiat, est toujours liée à la question de la réinsertion dans la communauté, mais une réinsertion qui force aussi à désaxer la communauté, à la déplacer, à la forcer à inventer à nouveau d'autres modes de vivre ensemble. Parce qu'après tout, je pense que la question essentielle qui traverse le western, qui traverse comme il traverse l'espace, c'est au fond la question de la justice. Qu'est-ce que vivre ensemble, si ce n'est établir un équilibre entre les êtres selon différentes modalités, et donc chercher une justice, mais une justice qui n'est jamais arrêtée, une justice qui ne se connaît jamais totalement, jamais parfaitement, et que donc il faut remettre en cause. Au fond, je pense que c'est de la démocratie qu'il s'agit dans le western, même si on n'y pense pas toujours d'abord, mais c'est la capacité à réinventer, à discuter. Alors parfois, en s'affrontant la violence dans les westerns, mais à discuter de ce qu'est la justice.
Vous allez nous convaincre, en tout cas au cours des 50 prochaines minutes. Vous êtes professeur de philosophie de l'art et de littérature à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. L'auteur, avec Natasha Pfeiffer, d'une philosophie du western, un ouvrage collectif publié aux presses universitaires de Saint-Louis, va paraître aussi aux presses universitaires du Septentrion un essai sur le cinéma d'Anthony Mann, coécrit toujours avec Natasha Pfeiffer. Et vous parlez, je viens de vous entendre employer cette expression, d'art westernien.
Oui. Oui, je pense que c'est un art à part entière. Alors bien sûr, un art cinématographique, le cinématographe est un art, mais il y a un genre westernien qui a, à mon sens, un statut tout à fait particulier. C'est un art du paysage, bien sûr, c'est un art de l'histoire aussi, mais avec un rapport très particulier à l'histoire. Je vois ce qui fait notamment la spécificité et l'importance de cet art westernien, c'est qu'au fond, il n'est pas, dans l'histoire du cinéma, il n'est pas lié à un contexte particulier dans le cinéma hollywoodien. Je pense surtout ici au western américain classique. Vous savez, des genres tels que le film de gangster, par exemple, ou le film noir aux États-Unis, qui sont aussi des genres extrêmement importants et riches, ces deux genres, pour ne prendre que cela, sont très liés à un contexte particulier. Le film de gangster à la prohibition et l'après-prohibition, etc., les années qui ont suivi. Le film noir, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années qui ont suivi, là aussi. Tandis que le western, c'est une mise en image d'une fiction qui engage au fond tout le devenir de la nation américaine, tout le devenir des États-Unis, et je pense au-delà le devenir, c'est pour ça que ça a autant d'intérêt aussi pour nous, le devenir de tout être en commun, comme je vous le disais. Il n'y a pas un contexte particulier d'émergence. En fait, le western apparaît, pour ainsi dire, avec le cinématographe. Et bien sûr, il y aura une période que l'on peut considérer comme période classique, un âge d'or au fond, et on pourrait le dater.
Tu vas de quand à quand à peu près?
1939-1956. Alors c'est pas totalement arbitraire, c'est un peu trop rigide. Mmh. Évidemment, il y a du pré-classique et puis il y aura des prolongements. Mais ce qui permet, c'est pas très original de dire ça, 39-56, ce qui permet de fixer ces dates, c'est que 1939, c'est Stagecoach de Ford, donc la chevauchée fantastique. On hésite parfois sur les titres français parce qu'ils sont parfois très éloignés des titres anglais. Mais donc la chevauchée fantastique, film majeur et qui va d'ailleurs inspirer beaucoup Orson Welles pour réaliser ensuite Citizen Kane. Alors pas directement, mais au sens où Orson Welles s'est au fond formé à l'art cinématographique en revoyant plus d'une dizaine de fois Stagecoach avant de commencer Citizen Kane. Donc là, c'est vraiment l'entrée dans le classicisme westernien. Et puis 1956, The Searchers, donc La prisonnière du désert, aussi de John Ford, et qui au fond annonce la clôture de cette période. Je dis bien qu'il l'annonce, puisque l'un des grands westerns de Ford qui viendra encore, c'est 1961, L'homme qui tue Liberty Valance. Donc évidemment, il faut commencer un petit peu avant, dès 1930, The Big Trail, la grande piste, je pense en français, en tout cas c'est The Big Trail en anglais de Raoul Walsh, c'est déjà un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment à partir de Stagecoach, La chevauchée fantastique, en 39, qu'on a un épanouissement d'un genre westernien tout à fait spécifique, mais qui est annoncé très tôt et qui, bien sûr, se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui encore, on tourne des westerns, même si, bien sûr, c'est avec moins de fréquence. Mais pendant les années 39 à 56, c'est vraiment une période de forte production westernienne. Et ça correspond d'ailleurs à l'âge d'or aussi des studios hollywoodiens. Donc voilà, l'âge d'or d'Hollywood.
Mais avant d'arriver au film que vous avez choisi, en particulier, oui, Laurent Van Eyne, Les Affameurs, Band of the River en anglais d'Anthony Mann, dites-nous comment caractériser cet art westernien, puisque vous l'avez dit, il existe depuis le début de l'invention du cinéma. On fait encore aujourd'hui du western, c'est donc il y a bien une persistance des problèmes que la forme soulevée par le western voudrait venir résoudre. C'est-à-dire, oui, qu'il y a bien une justification.
Alors, j'aurais tendance à le définir, ça peut peut-être surprendre dans un premier temps, mais comme étant un art lyrique. Je vous explique pourquoi. En fait, il faut repartir des dates. En 1890, c'est la fin de la frontière, c'est la fin de la conquête de l'Ouest, historiquement, officiellement. Donc c'est le bureau de recensement d'administration américaine qui fixe en 1890 la fin de l'époque de la frontière. C'est-à-dire qu'on considère que la surface des États-Unis est suffisamment occupée pour considérer qu'il n'y a plus de wilderness, de partie totalement sauvage. Ça, c'est 1890. 1890 aussi, Whodetney, le dernier affrontement sanglant avec des Indiens, avec un groupe de Sioux. 1893, tout est très serré. 1893, il y a l'exposition universelle de Chicago, et dans ce cadre, un congrès d'historiens où Frederick Jackson Turner, historien américain, prend la parole de manière mémorable, en s'efforçant de définir ce qu'est l'esprit américain, au fond, par la frontière. Ce qui n'allait pas de soi à l'époque. On rapprochait plutôt ce qu'étaient les États-Unis, pour les Américains eux-mêmes, de la guerre d'indépendance 1776. Turner commence vraiment à affirmer que la frontière est une expérience fondamentale et formatrice de l'imaginaire américain. Et puis, c'est là que je vous en arrive, évidemment, 1895, l'invention du cinématographe. Autrement dit, le cinéma apparaît au moment où l'époque de la conquête de l'Ouest disparaît. Et j'aurais tendance à dire que l'art westernien, c'est un art qui va répéter ce qui est en train de s'effacer, ce qui vient de s'effacer. Comme si le cinéma prenait la relève de la conquête. Et c'est dit d'ailleurs de manière très explicite dans la première version, si je me trompe, je crois que c'est la première, de Star is Born, une star est née de... Donc la première version, c'est Duellman, il y aura une version de Cukor ensuite. Et c'est là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec un western. Mais c'est le rêve d'une jeune fille qui veut devenir star à Hollywood, sa famille veut la retenir, sauf sa grand-mère. Et sa grand-mère lui dit, si, vas-y, en faisant ça, tu prends ma relève. Et elle était une pionnière. Et donc, oui, même dans ce cinéma hollywoodien des années 30, au moment où on approche de cette période de classicisme du western, eh bien, il y a la prise en charge de cette idée que le cinéma va répéter l'expérience de la conquête.
Mais alors, quel territoire le cinéma va-t-il conquérir ?
L'image, tout simplement. Il va s'agir de traverser sans cesse l'image de haut en bas, en diagonale. On verra que chez Anthony Mann, la diagonale est extrêmement importante. Donc, c'est bien sûr traverser l'image, mais c'est aussi avoir une prétention à reposer la question de cette possibilité du vivre ensemble, possibilité du vivre ensemble, surtout lorsque l'héritage est celui de la division. Le western, l'art westernien, et puis l'époque de la conquête de l'Ouest aussi, est évidemment très marqué par la guerre de sécession, par la fracture, la balafre qui traverse les États-Unis. Et donc cette question-là, elle était à l'œuvre manifestement dans la période historique, mais c'est cette question-là que va reprendre aussi, mais à l'échec de tout un siècle finalement, que va reprendre le cinéma. Je pense vraiment que avec le western, il y a une manière de poser un acte. C'est pas une représentation, le western, c'est pas une représentation d'une période. C'est vraiment poser un acte, filmer en répétant ce qui a déjà eu lieu, mais tout en le sachant bien sûr comme disparu. On ne répète que ce qui n'est plus au fond. Donc on va répéter ce qui a déjà eu lieu, et donc on va poser ainsi, dans cette répétition, une question, la question du vivre ensemble. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est un art lyrique, à mon sens. C'est un art lyrique dans la mesure où il s'agit de retenir encore ce qui est en train de s'effacer. Premier western, c'est 1903, l'attaque du Grand Rapide d'Edwin S. Porter. Donc c'est très vite. L'époque westernienne est quasiment encore là quand on tourne les premiers westerns. Donc c'est retenir ce qui est en train de s'effacer et le retenir en s'inquiétant. Le western est tout, je dirais, sauf un art épique, un art de la célébration des structures établies, d'un ordre du monde. Ça, on a parfois pu dire cela, un grand théoricien du théâtre et du cinéma comme Bernard Dort soutenait cette thèse-là, et Deleuze d'ailleurs essaye de s'en affranchir, mais je pense qu'il a parfois un petit peu du mal à s'en affranchir. Le western, ce n'est pas, à mon sens, un art épique, au sens où ce n'est pas un art qui consacre un ordre du monde. Consacrer un ordre du monde, c'est consacrer une présence, au fond. Tandis que le western, comme art lyrique, c'est un art qui se souvient de ce qui échappe, donc qui est marqué, au fond, par une inquiétude, c'est l'inquiétude de la mortalité, du crépuscule. Tout western, fondamentalement, est crépusculaire, si vous voulez. Donc, c'est un art qui est marqué par le crépuscule, par l'effacement, et qui, dans sa réinvention propre, repose la question sempiternellement. Le western va reprendre sans cesse la même question, parce qu'elle est fondamentalement l'interrogation indépassable. Qu'est-ce que la justice ?
Y compris 115 ans après, parce qu'aujourd'hui, en 2018, oui. Les Américains en premier lieu continuent de proposer des westerns. Il y en a plusieurs par an qui sortent, alors sous différentes formes, soit les frères Cohen ou autres, on a toujours cette même thématique qui revient. Il y a comme un paradoxe dans ce que vous dites, la répétition, le western vient répéter ce qui n'est plus.
Oui.
Et en même temps, ce que disait Russell Banks dans le texte qui a ouvert l'émission, si vous voulez recommencer, il faut tuer le passé. Or, les Américains sont très doués pour tuer le passé. C'est-à-dire qu'ils seraient eux-mêmes responsables de la disparition de quelque chose qu'ils voudraient faire se répéter.
Oui, tout à fait. Je crois que je comprends qu'on puisse dire que c'est un paradoxe, mais je crois qu'au fond, ça s'explique assez facilement. Ce qui est en jeu là-dedans, c'est l'histoire, mais pas seulement comme continuité. Un film qui le montre remarquablement, justement, c'est La prisonnière du désert, 56, pour clore la période classique. Dans La prisonnière du désert, au fond, tout ce western est une réflexion sur la filiation, mais sur une filiation qui n'est pas naturelle. Oui, la filiation naturelle, elle serait dans une continuité historique. C'est pas ça qui intéresse John Ford, c'est pas ça qui intéresse les westerniens. C'est comment, dans l'histoire, fait-on événement et peut-on recommencer ? Vous voyez, la répétition, c'est pas simplement en remettre une couche sur ce qui est toujours là. Non, c'est réinventer, recommencer ce qui a disparu. On ne peut recommencer en étant libre que ce qui a disparu. Donc la période de la conquête de l'Ouest a dû disparaître pour que l'on puisse la réinventer en image et reprendre la question. Et donc quand je vous disais, j'utilise les termes sempiternellement, c'était un petit peu caricatural, faut surtout pas penser que la répétition est une pure et simple redondance. Tous les westerns sont dans le décalage par rapport à ce qu'a dit le précédent. Mais simplement, l'invention se fait sur base de cette perte de ce qui est à l'origine du western, à savoir la conquête de l'Ouest. Et grâce à cette perte, on est capable de réinventer. Voilà.
Cette ambiance bucolique qui vient du film que nous allons aborder à présent avec vous, Laurent Van Eynd, quand on vous a proposé de venir participer à cette émission, vous avez proposé un western, Les Affameurs en français, Bend of the River en anglais, d'Anthony Mann. C'est votre western préféré ?
Alors, j'ai beaucoup de westerns préférés.
J'imagine.
Mais c'est un des westerns qui me tient particulièrement à cœur et qui, me semble-t-il, convient bien pour une réflexion philosophique. À dire vrai, je crois que tous les westerns conviennent à la réflexion philosophique.
C'est le sens de cette semaine.
Mais il est vrai que celui-là a peut-être un certain nombre de thématiques philosophiques immédiatement prégnantes, mais qui, pour autant, prennent forme aussi plastiquement. Et c'est ça qui m'intéresse tout particulièrement dans Bend of the River. Et puis j'ai une tendresse particulière pour Anthony Mann.
Alors dites-nous, pour ceux qui ne le connaissent pas, Anthony Mann, en deux mots.
Alors Anthony Mann est né en 1906, il est mort en 1967, en réalisant d'ailleurs son dernier film, Maldon pour un espion, qui a été achevé par d'autres ensuite. C'est au fond un des meilleurs représentants, je dirais, du classicisme hollywoodien, un des meilleurs représentants de la production studio, dans ce qu'elle peut avoir de plus riche et de plus inventif, de plus tâtonnant aussi, mais dans le bon sens. Ce qui me permet de dire ça, c'est que au fond, il a traversé tous les genres. Anthony Mann, donc Bend of the River, c'est 1952, ses premiers westerns, c'est 1950, mais il a d'abord commencé sa carrière. Essentiellement, bon, il y a quelques œuvres mineures, mais il a surtout commencé sa carrière avec le film noir. Donc c'est d'abord un réalisateur de films noirs. Chose très importante, c'est pas le seul dans l'histoire du western à avoir commencé par le film noir. Et le film noir, je dirais, était une excellente école pour des grands réalisateurs, parce que comme c'était en général des films de série B, on leur laissait un petit peu la bride sur le cou. Au fond, il n'y avait pas de budget énorme engagé sur ces films de série B, donc sur la plupart des films noirs, pas tous. Et ça permettait au fond à ces réalisateurs, notamment donc Anthony Mann, de faire des expériences plastiques. Et notamment, il a tourné ses films noirs avec un directeur de la photographie tout à fait exceptionnel, qui est John Alton. Et donc, il s'est vraiment formé à la réalisation. Il a vraiment commencé à être un artiste à part entière, si vous voulez, en tournant les films noirs. Il a vraiment commencé, je dirais, à maîtriser sa forme, sa manière de mettre en scène grâce aux films noirs. Et bon, ça se termine, il y a 7 films noirs, 7 ou 8, enfin 7 vraiment importants. Et puis après cette période film noir, je dirais avec tout le bénéfice de ce travail sur la forme cinématographique et notamment sur les éclairages, etc., il s'attaque au western. Avec 2 westerns en noir et blanc, Les Furies, qui est un western un petit peu atypique parce qu'il est un peu matiné de mélodrame familial, c'est assez étonnant. Puis un western très riche, Devil's Doorway, La Porte du Diable, qui est un western que l'on peut étiqueter pro-indien, la même année d'ailleurs que la Flèche Brisée de Delmer Daves. Donc il y a ces 2 premiers westerns en noir et blanc, et puis va commencer un cycle. Man of the River est le deuxième film
de ce cycle.
Voilà, un cycle avec James Stewart.
Voilà.
Et là, le premier film de ce cycle, Winchester 73, est tourné en noir et blanc. Les autres seront tournés en couleur. Et donc, je pense vraiment que dans ce qui fait la richesse du parcours de Mann dans le western, c'est qu'il dispose de son art. Et son art, son invention formelle, ses méthodes sont tout à fait maîtrisées par Anthony Mann. Et donc, il les mobilise de manière souvent très impressionnante. Mais en même temps, je dirais, il a quasiment terminé sa phase d'expérimentation. Et il va se servir de ses formes acquises par son itinéraire préalable pour réfléchir à des enjeux qui sont souvent des enjeux anthropologiques ou des enjeux que l'on pourrait dire de philosophie de l'histoire, tout simplement.
Oui, et il y a un enjeu dans ce film en particulier, il y en a peut-être beaucoup, mais un qui revient de manière insistante, c'est la question que posait Russell Banks dans son texte, celle de savoir est-ce qu'un homme peut se transformer. C'est la question que pose le personnage principal, McClintock, interprété par James Stewart. On va laisser la voix aux personnages du film se présenter eux-mêmes. D'un côté, McClintock, interprété par James Stewart. De l'autre, Emerson Cole, John Emerson en français, interprété par Arthur Kennedy. Il y aura un troisième personnage, Jeremy Bale, vous allez l'entendre. Écoutez les dialogues qui s'instaurent. Les personnages apprennent à se connaître, même à se reconnaître. On les écoute et vous nous en direz plus ensuite, Laurent Van Eynd.
I thought we're out of Cheyenne country. What do you make of that?
Shoshone. Real mean when they want to be. Lately, they want to be. They cut up some trappers last week for their rifles.
Huh?
Your people got any rifles?
Uh-huh.
They know how to use them?
No.
Je ne croyais pas qu'il y avait des Cheyennes dans cette contrée. Ça vient bien des Cheyennes, ça. Mais ce sont des Shoshones. Ils sont très cruels quand ils le veulent, et j'ai l'impression qu'ils le veulent. Ils ont massacré des trappeurs cette semaine pour leur voler leurs fusils.
Hein?
Est-ce que vos amis ont des fusils?
Mm-hmm.
Ils savent s'en servir?
Non.
Et vous avez pu arriver vivant jusqu'ici?
La chance.
Dick, dépêche-toi! Prends ton plat avant que Margie ne le mange tout entier. Il y a des haricots, du thé et de bons gâteaux. Et cette fois, les gâteaux sont tendres.
Ah, les fameux gâteaux dont je t'ai parlé.
Ah oui.
Tiens, où est-ce que tu l'as décroché, celui-là?
Il se balançait sous un arbre. J'ai oublié votre nom. Est-ce que vous me l'avez dit?
John Emerson. Vous êtes Jeremy Pell? Dick m'a déjà parlé de vous.
Vous êtes John Emerson du Kansas?
Oui.
Ah. Venez goûter ce gâteau. Hé, hey, Laura! Je vous présente John Emerson. Il a très faim. Vous pourriez peut-être lui donner quelque chose à manger.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de western cette semaine, philosophie du western. Et aujourd'hui, Les Affameurs, Bend of the River, le western d'Anthony Mann, en compagnie du philosophe Laurent Van Eynde. Nous venons d'entendre ces personnages, Laurent Van Eynde, il faut nous les présenter. C'est des hommes au passé trouble qui accompagnent le convoi de pionniers, on peut le dire comme ça.
Oui, je serais même un petit peu plus précis, c'est un extrait,
ah bah oui,
très, un extrait très intéressant. La manière dont il est introduit, au fond, le film a commencé par quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire en convoi de pionniers. Et James Stewart, donc Lynn McClintock, est le guide, au fond, de ce convoi de pionniers. Et il suggère de s'arrêter. Alors, cet arrêt, ça n'a rien de rien, on se dit, bon, c'est habituel, effectivement, le soir vient, on va bivouaquer, etc. Si ce n'est que Jeremy Bell, dont vous avez parlé, donc qui est lui le chef des pionniers,
des pionniers,
il dit mais pourquoi maintenant? Il y a encore des heures de clarté, etc. Or, cette phrase-là, on va l'entendre trois fois dans le cycle de Mann avec James Stewart. On l'entendra aussi dans The Man from Laramie, le dernier du cycle, et dans l'avant-dernier, The Far Country, Je suis un aventurier. Et c'est pas par hasard. C'est-à-dire que on n'est pas simplement dans ce moment d'arrêt normal qui rythme la conquête. On est dans un moment d'arrêt qui est au fond événementiel. Un moment d'arrêt qui n'est pas naturel. Il va se jouer quelque chose là-dedans. Et ça me permet de revenir à votre question, à une de vos questions préalables. Quand vous posez la question de l'individu et puis de la communauté, etc. Je vais le western, c'est une question du vivre ensemble. Etc. C'est exactement de ça dont il s'agit ici. On ouvre la séquence avec une communauté, les pionniers, et puis on arrête artificiellement ce processus. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette parenthèse qui va s'ouvrir et qui se refermera avec la fin du film? Mais va se poser, va se déployer la question de l'individualité. Alors, l'individualité, c'est celle d'abord de Glenn McClintock, donc ce guide qui va, puisqu'on est à l'arrêt, les pionniers vont faire cercle, évidemment, hein, on est dans cette imagerie-là, et lui va dans les montagnes essayer de trouver un chemin. Et là, il va rencontrer Emerson Cole, effectivement, mais il le rencontre dans des circonstances tout à
Il est sur le point de se faire pendre par les Indiens.
Exactement. Et c'est une séquence remarquablement mise en scène parce qu'un simple geste nous permet de comprendre qu'il y a une relation qui va se nouer, une relation qui s'est déjà nouée implicitement et qui va se développer entre Emerson Cole et Glenn McClintock, puisque Glenn McClintock met directement la main au cou, à son cou, où il a un foulard. Bon.
Oui, c'est ça, il mime le mouvement de la corde sur le cou d'Emerson Cole avec sa propre main sur son propre cou.
Et
c'est très étonnant.
C'est-à-dire qu'il sent au fond lui-même
comme s'il s'identifiait à cet étranger qu'il rencontrait à l'instant.
Et bien sûr, on va comprendre plus tard qu'il s'est trouvé dans la même situation. Je dirais que la mise en scène est assez géniale parce qu'il y a une espèce d'ellipse spatiale, c'est très étrange. Donc on cadre James Stewart et brutalement, il y a un mouvement, ce qui semble être un mouvement panoramique, mais truqué, et qui permet de saisir immédiatement Emerson Cole, qui les met en relation. Donc, il est fait s'entre-appartenir, au fond. Alors, du point de vue de la narration, ce sera l'expérience commune de la pendaison, si ce n'est que pour les deux, heureusement, ça a été interrompu. Mais plus fondamentalement, il s'agit de mettre en rapport deux êtres comme étant pour ainsi dire, des jumeaux, des doubles. Et ce qui me permet de dire ça, c'est que c'est au fond la thématique dominante des cinq films du cycle James Stewart d'Anthony Mann. C'est une méditation sur le double. Alors, qu'est-ce qui se joue dans cette méditation sur le double ? Dans le film précédent, Winchester 73, mais le double, au fond, c'était le double maléfique face à celui qui se voulait rédempteur. Ici, c'est plus complexe. Il s'agit de deux hors-la-loi qui reconnaissent leur lien de fait, si vous voulez, mais qui vont avoir des rapports totalement différents à leur passé. Emerson Cole, celui que James Stewart vient de sauver, donc qui jouait par Arthur Kennedy, Emerson Cole va échouer à devenir autre. Il va rester marqué par son rapport à la criminalité. Tandis que tout le parcours de James Stewart, donc de Glenn McClintock, va consister à rajouter du double, c'est-à-dire à se dédoubler lui-même, c'est-à-dire à devenir autre, ce dont nous parlait Russell Banks, justement. Mais ce devenir autre ne se joue pas dans un claquement de doigts. Ce devenir autre, c'est toute l'histoire du film, c'est l'histoire de cette individualité. C'est une difficulté physique, une difficulté morale. Et c'est au terme de cette difficulté seulement, et cela referme alors la parenthèse dont je parlais il y a un instant, du rapport à la communauté, cela ne peut se réaliser en fin de compte que dans la réalité, insertion dans la communauté. Donc c'est le fait de parvenir à devenir autre qui permet au héros d'intégrer à nouveau une communauté alors que c'était un personnage fondamentalement solitaire. Et ce personnage solitaire, ben, il a en miroir Emerson Cole. Emerson Cole est celui qui restera fondamentalement solitaire.
Glenn McClintock va-t-il réussir à devenir autre, à rompre définitivement avec son passé sombre de hors-la-loi et intégrer une communauté ? C'est l'enjeu du film. Dans un instant, on va écouter un autre extrait qui formule dans la bouche du personnage du convoi qu'on a à peine introduit dans l'extrait précédent, cet enjeu-là avec une expression qui lui est propre, celle de la pomme pourrie. Mais avant cela, juste encore un point sur l'extrait qu'on a entendu, Laurent Van Eyde. Oui. Il y avait cette importance de la nourriture, des gâteaux que l'on mange. Le film s'ouvre avec un commentaire de la part du cow-boy sur la qualité des gâteaux qu'on lui offre. C'est une des particularités, un des charmes de ce film, que d'accorder une grande importance à la vie quotidienne des pionniers et des cow-boys. On les voit laver leurs chemises, on les voit commenter les repas, c'est très présent.
Oui, tout à fait. Vous avez raison. C'est aussi une marque, ceux-là sont du classicisme westernien, et surtout sous l'égide de John Ford. Mann, de ce point de vue-là, est un héritier de John Ford. C'est-à-dire qu'il y a une attention, enfin, de John Ford, pas seulement, je dirais de John Ford et, excusez du peu, de Shakespeare. C'est-à-dire que s'inspirant de Ford, mais aussi de sa lecture très intense de Shakespeare, comme d'autres réalisateurs de western, d'ailleurs, Anthony Mann accorde une importance toute particulière, je dirais anecdotique, au pittoresque. Ce que vous pointez là, c'est une forme de réalisme westernien, qu'on retrouve aussi chez un Delmer Daves, par exemple, dans le film qui s'intitule tout simplement Cowboy, où là, il ne s'agit que de ça, au fond, la vie quotidienne du cowboy. Mais cette attention pour la vie quotidienne, c'est une attention... Je ne le réduirai pas, même s'il y a de ça, je ne le réduirai pas à un souci réaliste. Je crois que c'est surtout, ce qui est surtout en jeu là, c'est la réalité de la conquête. Si la conquête, comme je vous le disais en commençant, est au fond une méditation en acte, en mouvement, une méditation en mouvement sur la possibilité de faire communauté, eh bien, il faut repartir avant tout de la multiplicité des attitudes particulières. Et donc, le western ne nous montre pas que des héros, ou tous deviennent des héros si l'on veut, mais ce qui est important, c'est la pluralité des personnages, à partir de laquelle il est possible de réinventer peut-être une communauté, ou d'instituer une communauté forte et très fort. Pour cela, il y a un plan tout à fait magnifique dans Wagon Master, qu'on voit des braves, 1951 je pense, de mémoire, t'avais mentionné, je crois que c'est 51, où il y a un débat entre des pionniers et puis des saltimbanques qu'ils ont rencontrés. Et doit-on les garder dans le convoi ou pas, ou sont des saltimbanques qui ont pas l'air, les pionniers sont des mormons, donc ils sont un petit peu méfiants à garder ces saltimbanques. Et peu importe, le débat se conclut, et Ford, de manière tout à fait étonnante, littéralement laisse tourner la caméra. Et le champ est envahi de ces personnages qui vont à droite et à gauche, qui ont telle ou telle particularité physique, ou tel emploi. Il y en a une qui sonne de la corne, l'autre est un unijambiste, etc. Ford et Mann fait exactement la même chose, est très attentif à ça, parce qu'on ne peut pas penser la communauté sans penser la multiplicité.
Mais d'ailleurs, tous les westerns dont nous allons parler cette semaine, et je n'ose pas dire en général, parce que j'en ai très peu vu par rapport à vous, Laurent Van Eyde, mais joue avec ses codes. Le western est un genre très codé et peut-être n'y a-t-il pas un western qui coche toutes les cases des codes justement et qu'à chaque fois on essaye de montrer comment chaque individu est toujours un tout petit peu à côté de ce qu'on attend de lui.
Oui, tout à fait. Et la conquête est à chaque fois un petit peu à côté de ce qu'on attend d'elle. Le mouvement n'est jamais totalement le mouvement tracé. C'est le principe même de la conquête. La conquête, c'est traverser la ville d'Ernest. Donc autrement dit, il n'y a pas de chemin. On invente le chemin au fur et à mesure que l'on marche, que l'on avance. C'est très clair cela chez Mann dans ce cycle, aussi dans d'autres westerns, puisqu'on a encore fait. Ensuite, littéralement, on ne sait pas où on va. Il y a une toujours chez Mann, dans Chimarron, un de ses derniers westerns, une mise en scène de la ruée vers l'Oklahoma, qui était une ruée organisée, et tous les pionniers sont sur une ligne de départ. Et puis on donne le départ et ils se ruent pour aller gagner un lopin de terre. Et c'est une séquence qui est très longue chez Anthony Mann, et elle est très longue parce que, je sais pas combien de pionniers il y a à l'image, il y a évidemment beaucoup de figurants, il ne va pas tous les parcourir, mais il s'attache autant que possible à chacun de ces parcours, parce que ces parcours sont multiples, sont différenciés, sont pittoresques au fond. Et vous voyez, quand je vous disais que la référence est aussi shakespearienne, vous avez tous les grands westerniens connaissent très bien alors Shakespeare, c'est le cas, même si c'était des modestes en apparence, c'est le cas de John Ford, de Raoul Walsh, d'Anthony Mann, qui, au moment où il meurt, avait le projet de réaliser En roi lire, en western, avec John Wayne. Donc oui, ça faisait vraiment partie de son bagage. Et puis il y a beaucoup de références immédiates à Shakespeare. Mais ce qu'il va reprendre chez Shakespeare, c'est l'intérêt effectivement pour, vous savez, la double action. On a souvent ça chez Shakespeare, l'action qui se passe au niveau des rois, des aristocrates, et puis une action en parallèle, similaire, à un niveau social beaucoup plus commun. Eh bien, ce niveau social commun, c'est souvent ce qui intéresse les westerniens et notamment Anthony Mann. D'où cet intérêt vraiment, vous avez tout à fait raison, cet intérêt pour la réalité pittoresque, la manière dont on représente la ville aussi dans Man of the River peut apparaître réaliste ou en tout cas elle justifie la multiplicité des points de vue. Chez les grands westerniens, c'est rare qu'il y ait simplement, comme on le croit, une rue unique et un face-à-face. Ça peut arriver par moment, mais les grands westerniens démultiplient ça.
C'est ça. Alors on va reprendre le fil des affameurs quand même, parce que bon, c'est passionnant d'entendre la trajectoire que l'on peut suivre quand on parle du western. On va essayer de revenir à ce film, Les Affameurs. Je vous parlais de la pomme pourrie. Voici l'extrait. Les pionniers sont arrivés à Portland. Ils chargent le bateau avant de traverser le fleuve. Et ce Jeremy Bale, qu'on a entendu dans le premier extrait, qui est comme le chef du convoi, le patriarche des pionniers, fait part d'une de ses convictions qui est que s'il y a une pomme pourrie dans la communauté, et bien de même qu'une pomme dans un panier de fruits pourrit les autres fruits, il en ira de même. Il dit cela pour montrer qu'il faut se méfier des personnes qui se présentent comme étant des aides pour les pionniers. Peut-être n'en est-il rien. Écoutez cet extrait.
All aboard is coming aboard. Hurry up. All that gang on the board. We're getting underway.
Bye.
Alors tu es décidé à rester à Portland?
Pour quelque temps. Ensuite j'irai en Californie.
Tu suis toujours une étoile?
Il est parfois bon pour un homme d'avoir une étoile qu'il conduise.
Tu as raison.
Tout le monde est à bord? Alors tirez la passerelle, on prend le large. Allons, vite, vite!
Ne l'oubliez pas! Je vous avais promis de venir me voir!
Je viendrai, si j'ai le temps.
Eh bien je crois qu'il y a, comme on dit, de la romance dans l'air ce matin.
Harry a l'air d'un bon garçon. Mais je n'aime pas du tout ce job.
Pourquoi ça?
J'ai entendu dire à Grundy qu'il était une sorte de contrebandier dans le Missouri.
Bon, il serait pas le seul homme qui a fait ça à la frontière. Mais il y en a beaucoup qui décident de changer.
Il lui serait difficile de changer. Quand une pomme est pourrie, il n'y a rien d'autre à faire qu'à l'acheter, car elle risque de gâter toutes les autres pommes.
Il y a une différence entre un homme et une pomme.
Stand by to cast off! Pay your power line!
Il y a une différence entre un homme et une pomme. C'est vraiment la question philosophique du film, hein, Laurent Van Eyde, qu'il faut prendre au sérieux, parce que tout l'enjeu du personnage de James Stewart, ça va démontrer qu'il n'est pas une pomme et que la pourriture qui pouvait le constituer peut se résorber et peut donner quelque chose de beaucoup plus sain et vivable.
Oui, question de la pomme pourrie ou la différence anthropologique selon Anthony Mann. Donc c'est assez étonnant, on dit comme ça. Mais c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est la capacité à être autre, à se changer, à se transformer, est constituante dans la différence anthropologique. Cette question de, d'une différence entre l'homme et la nature, au fond, est la question de la possibilité pour l'homme de s'inventer lui-même, de se créer, tout simplement. Et c'est de ça qu'il s'agit dans le cas de Glenn McClintock, c'est être capable de s'inventer, de ne pas être simplement ce que l'on a déjà été, à savoir un criminel. Et tout l'enjeu de l'expérience de Glenn McClintock au long du film va être ce parcours, cet effort risqué. Il y a une notion de risque très importante dans la transformation chez Anthony Mann. Cet effort risqué à devenir quelqu'un d'autre. Alors, dit comme cela, ça peut sembler peut-être assez sommaire, mais je crois que en même temps, il faut donner une chance à un western de nous faire réfléchir autrement ce genre de questions tout à fait fondamentales de la différence anthropologique, nous laisser l'occasion de la réfléchir autrement grâce à ce qu'est un western, grâce à ce qu'est un film, c'est-à-dire une image. Et c'est ce qui peut-être m'impressionne le plus, je dirais, dans Man of the River, c'est la manière dont Mann, disposant donc de son travail de réalisateur passé, disposant de ses formes, comment Anthony Mann va donner à voir dans l'image cet effort de James Stewart et cet effort donc de Glenn McClintock, cet effort qui traverse tout son corps. Alors comment le montre-t-il? Vraiment par une figure plastique, ce que j'appellerais le devers. Vous savez, le devers, c'est la pente quand on n'est pas dans l'angle de la pente. C'est quand on marche en travers ou dans le dévers, forcément, on a toujours un pied plus bas que l'autre. Et donc on est occupé à monter, mais toujours en situation de déséquilibre. Les randonneurs connaissent ça bien. Mmh. Je crois les skieurs aussi, malheureusement, plus en descendant, évidemment. Et donc, les dévers, c'est au fond, dans la tentative de se hausser, dans l'escalade, au fond, c'est la tentative de rester debout, tout simplement, alors même que on est menacé à tout instant de tomber. Et vous savez, la séquence dont on parlait tantôt, le moment de la rencontre entre Emerson Cole et Glenn McClintock, se joue dans un dévers, justement, et qui est filmé, alors qui est saisi dans un filmage quasiment obsessionnel par Anthony Mann. J'avoue que je ne sais même pas exactement comment il place sa caméra pour donner cette impression-là. Dans tous les plans qui constituent cette première scène, on est toujours dans le dévers, aussi bien de la part de Glenn McClintock que de la part d'Emerson. Tous les deux sont dans cette instabilité, si vous voulez. Et bon, après, cette notion de dévers va sans doute quelque peu disparaître.
On la retrouve ensuite.
On va la retrouver ensuite. Dans tout ce qui va suivre, dans les trentaine de minutes, je pense, qui suit, au fond, Mann revient à ce qui fait le cadre, au fond, la verticalité et l'horizontalité. La verticalité du mont Hood, que l'on voit toujours à l'arrière-plan, et puis l'horizontalité de la rivière Columbia, qu'ils sont occupés à un moment donné à remonter. Et puis, au moment fatidique, au moment décisif en tout cas, moment où Glenn McClintock doit s'obstiner à devenir autre, ils vont traverser les montagnes en abandonnant le fleuve plus vite qu'ils ne l'avaient fait lors d'un premier voyage. Ils vont commencer leur ascension, mais tous les plans montrent sans cesse les chariots qui sont à la limite de verser. Ils sont toujours en déséquilibre. Ça ne signifie pas seulement qu'ils n'arrivent plus à monter. Ça ne signifie pas non plus qu'ils sont sur le point d'être avalés par la pente. Non, ils sont en équilibre, dans un équilibre instable. Et de très longues séquences de ce type-là, donc il y a des séquences où il s'agit vraiment de filmer que ça, au fond. Et je connais pas beaucoup de westerns où l'on filme cela, précisément. Bien sûr, on filme très souvent les covered wagons, donc les chariots des pionniers. Et là, c'est plus des chariots avec des vivres dans les séquences auxquelles je pense, avec des denrées. Mais c'est rare qu'on les filme de manière aussi longue dans ce déséquilibre. On se dit qu'à un moment donné, ça va verser. Non, ça ne verse pas.
Et tout ce que vous décrivez là, c'est une impression diffuse. Parce que quand on regarde le film, même si on le voit, on ne se dit pas qu'il insiste autant. C'est là où c'est très subtil. Ouais. Et c'est là où Mann fait quelque chose que seul le cinéma peut faire.
Ouais,
c'est qu'il montre quelque chose sans procédé stylistique trop insistant qui pourrait lasser le spectateur.
Ouais.
Et qui crée une impression diffuse de déséquilibre qu'on aimerait rétablir à la normale.
Tout à fait. Et ce qui, je pense, parce que vous avez raison, c'est pas thématisé évidemment, mais le moment où on le sent particulièrement, c'est le moment où les choses basculent. pour nos éditeurs, pour le dire en deux mots, donc on achemine les denrées vers le groupe des pionniers qui s'est établi dans une vallée.
Donc les pionniers ont trouvé un endroit où poser leur campement, une vallée dont ils rêvent qu'elle soit absolument merveilleuse, où ils pourraient avoir à manger à volonté, etc. Simplement pour faire venir des vivres, ils doivent aller retourner en ville et acheter à quelqu'un de pas très honnête tous ces vivres qui doivent être livrés. Or, les livres n'arrivent jamais, ils se sont fait rouler, donc ils doivent redescendre en ville pour les récupérer. Et c'est le moment où le lien entre les deux personnages principaux va basculer.
Oui, tout à fait. Donc au cours de cette ascension, parce que ils sont poursuivis et donc ils essayent de couper au plus court, au fond. Et donc c'est là qu'on a cette ascension avec tous ces dévers, ces instabilités, etc. Et puis à un moment donné, donc là on a à la fois Emerson Cole et Glenn McClintock, donc les doubles dont on parlait. Et il y a une tentation à un moment donné. Il y a une tentation parce que il y a non seulement les pionniers qui sont au-delà du coude de la rivière, le Bend of the River, mais il y a aussi des mineurs. Parce qu'entre-temps, on a découvert de l'or tout près de Portland. Il y a des mineurs qui voudraient pouvoir obtenir eux-mêmes ces denrées et les payeraient beaucoup plus cher. Et donc, il y a une tentation, évidemment, de céder aux plus offrants. Glenn McClintock tient à remplir son devoir et à acheminer les denrées vers les pionniers. Emerson Cole est beaucoup plus hésitant. Et en fin de compte, il s'en prend à Glenn McClintock pour se débarrasser de lui et acheminer les denrées vers les mineurs, qui sont plus bas. J'y insiste parce que, plastiquement, c'est vraiment un moment très très réussi. On a eu tous ces moments d'instabilité. Il y a un affrontement. Glenn McClintock prend des coups, alors pas directement d'Emerson Cole, mais de ses ouailles, si vous voulez. Et là, Mann filme ça de manière tout à fait magnifique. Si vous regardez Bend of the River, après nous avoir entendu,
On va écouter l'extrait surtout après que vous nous l'ayez présenté.
Vous vous rendrez compte que, en fait, tout est filmé en oblique, perpétuellement. Alors, les corps occupent des positions obliques, sont dans des postures obliques. Il ne s'agit pas d'avoir un plan oblique à la manière d'Orson Welles, ce sont des plans classiques, on est dans le classicisme. Mais tout est fait pour que les corps témoignent de cette instabilité. Et lorsque James Stewart est abandonné, il y a un moment où il est effectivement filmé, donc il est face caméra, mais son corps, lui, il n'y a que son corps et le ciel, et tout est fait d'une instabilité oblique. Et alors, par contre, c'est là que je voulais en venir. Après ce moment, donc où on perçoit sans cesse cette instabilité, ces obliques, ces dévers, Emerson Cole, lui, qui donc se voue
qui a basculé du côté obscur de la force, disons-le, définitivement.
Eh bien, il va changer d'itinéraire, évidemment. Et ce qu'il fait visuellement, c'est très marquant. Il s'agit d'effacer le dévers, c'est-à-dire qu'on a une séquence où les chariots font demi-tour, ils sont d'abord encore dans le dévers, et puis ils se mettent purement et simplement dans l'axe de la pente. Ils descendent tout droit. Il n'y a plus que l'on descende, que l'on monte, il n'y a plus de risque, il n'y a plus d'instabilité, parce qu'on n'essaye pas de devenir autre, tout simplement, dans ce cas-là. Tandis que Glenn McClintock, lui, est tout entier dans cette instabilité de la rénovation de soi.
Écoutons comment cette instabilité d'abord morale, qui a une traduction plastique et visuelle que vous venez de décrire, s'exprime dans le travail du son, qui est très précis. Dans ce film, il y a vraiment un énorme travail du son. On entend chaque détail, chaque pépiment d'oiseau, chaque roue de chaque chariot qui bouge. C'est donc la scène de la trahison de Cole et le corps meurtri de McClintock que vous avez décrit.
Which way do we go from here? Off to the left there. Four or five more days at the most, we'll be at the settlement. It's right across the river.
Isn't that the gold camp?
That's right.
De quel côté on se dirige?
On va toujours sur la gauche. Quatre ou cinq jours au plus, on serait arrivé au campement. C'est de l'autre côté de la rivière.
Le camp des chercheurs d'or est par là?
Oui.
À celui-là, on arriverait en deux jours.
Ce n'est pas notre chemin.
Couldn't take it, huh?
If I don't go, you'll go. If you hurry, you'll make it before it snows.
En route vers le camp des chercheurs d'or.
Ça fait peur de travailler pour rien. Et si je te suivais quand même?
Tu t'en iras. Et si tu te dépêches, t'arriveras avant la fonte des neiges.
T'as eu tort, tu sais, t'aurais bien dû m'achever.
Rie seulement comme ça, on est quitte. Maintenant, je t'ai payé ma dette. On se reverra peut-être.
On se reverra.
Tu me reverras, crois-moi. Chaque fois que tu seras prêt à t'endormir, tu fouilleras l'obscurité en te demandant si je n'y suis pas à l'affût, en train de t'épier dans un coin. Une nuit, j'y serai précisément. On se reverra.
On se reverra, hein, dit le personnage de Glenn McClintock à Emerson Cole, qui vient de l'abandonner par terre. Le convoi s'apprête à repartir en le laissant, vous l'avez dit, avec ce corps complètement abandonné et presque désarticulé sur le sol, mais qui dit quand même, face à Emerson Cole, on se reverra, ce qui rappelle leur premier face-à-face. Justement, oui. Vous parliez de ce jeu de regard avec cette sorte de reconnaissance mutuelle. Ici, c'est le lien est dénoué, mais il lui donne rendez-vous. Il dit « Je reviendrai », et on voit la dimension morale. Et si je reviendrai pour te punir, tu ne m'oublieras pas.
Oui, tout à fait. Il reste des jumeaux, au fond. Il reste l'un et l'autre des doubles, respectivement. Effectivement, ils vont continuer à s'entre-appartenir. Et là, on verse un instant, je dirais, dans ce passage du western, dans quelque chose qui est quasiment de l'ordre du fantastique. En tout cas, de l'invraisemblance narrative. Mais ça fonctionne néanmoins magnifiquement. Le convoi repart, donc y a du bétail aussi. Mais tous sont à cheval, sauf Glenn McClintock, qui parvient à les poursuivre, mais comme une ombre.
On ne sait pas comment,
oui. Mais c'est vraiment l'ombre d'Emerson Cole. Et Emerson Cole en est très conscient. D'ailleurs, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, le moment où Glenn McClintock lui dit « on se reverra », il change littéralement de couleur, si je puis dire. Il sait que c'est vrai. Il sait que l'un et l'autre s'entre-appartiennent, parce qu'au fond, tous les deux sont les deux faces d'une même réalité. Non pas seulement... rester ce que l'on est ou devenir autre, mais toujours risquer de rester ce que l'on est, alors même que l'on s'efforce de changer. Si vous voyez, dans la logique du double chez Mann, c'est que un personnage, il représente toujours une menace pour l'autre, tant ils sont proches. Et au fond, Glenn McClintock va gagner cette capacité à s'inventer parce qu'il est le double d'Emerson Cole. Parce que en miroir déformant, au fond, il parvient à s'inventer en s'efforçant de ne pas s'enliser à la manière d'Emerson Cole. Donc ils sont, de ce point de vue-là, deux faces d'une même réalité. Alors, le bien et le mal, peut-être, mais surtout le risque. Le risque de retomber dans la criminalité, alors même que l'on est en train d'essayer de devenir quelqu'un d'autre. Et le moment le plus frappant de ce point de vue-là, c'est le cas de le dire, frappant, j'ai pas fait exprès, mais ça va presque être un jeu de mots, c'est à la toute fin du film, lorsqu'ils s'affrontent. Glenn McClintock ne tue pas Emerson Cole. C'est une fin tout à fait étrange. Emerson Cole, donc à un moment donné, ils font le coup de poing l'un et l'autre, puisque effectivement, Emerson Cole s'est fait rattraper par Glenn McClintock, de manière assez, pas nécessairement très vraisemblable, mais peu importe. Et donc, ils font le coup de poing dans la rivière, mais on ne voit aucun coup mortel. Et finalement, c'est la rivière qui emporte Emerson Cole. Et on suppose qu'il est mort, mais on n'en a aucune certitude. Simplement, la rivière, c'est-à-dire le courant, le mouvement, littéralement, l'entraîne au loin et le fait disparaître de l'image. Il est oublié dans l'effort de la conquête. Il est effacé parce qu'il n'a pas su, justement, être un pionnier de soi-même, la capacité à s'inventer. Tandis que Glenn McClintock, lui, va ressortir de la rivière comme s'il était quelqu'un d'autre. C'est la fontaine de Jouvence dont on parlait avec Russell Banks en commençant. Et donc, cette gémellité, si vous voulez, des deux personnages, elle est vraiment très frappante. Et elle est importante aussi sur un point sur lequel je voudrais revenir, si vous permettez. On a parlé de la reconnaissance. Tous deux se reconnaissent, au fond. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans le western. Les personnages se reconnaissent, ils sont des figures bien connues. Ils se reconnaissent comme figures bien connues. C'est un moment décisif, toujours dans un western. Vous en parlerez sûrement avec My Darling Clementine de Fort. Il y a cela aussi.
Demain matin, oui.
Ces moments-là, c'est le moment où le western se dit « je suis en train de répéter ». Nous nous reconnaissons parce que nous savons quels sont nos rôles, au fond. Et donc, on revient à ce qu'on disait au début, c'est de l'ordre de la répétition et du déplacement en même temps. C'est de l'ordre de la continuité et de la discontinuité, ce qui fait qu'il y a profondément histoire. Et les personnages se reconnaissent. On sait que l'Ouest est traversé à la fois par des pionniers et par des justiciers et par des hors-la-loi. Ils se reconnaissent comme tels, mais le fait même de se reconnaître les amène à jouer un rôle différent. Et donc, on a à la fois reprise et déplacement. Et c'est ce qui, en fin de compte, pour moi, fait que le western est certes un art lyrique, comme je vous le disais au début, mais aussi un art très réflexif. Il se comprend, il se mire en lui-même sans cesse. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse de l'art westernien, c'est pas banal, d'être à la fois lyrique et réflexif, d'être à la fois dans la retenue de ce qui se passe, dans une forme de mélancolie, dans une forme d'enthousiasme aussi, et tout cela en se pensant, en se réfléchissant.
Don't Change Blues, The Growlers sur France Culture, les chemins de la philosophie, pour terminer cette émission sur la possibilité de changer ou non, telle que cette question est posée dans le western d'Anthony Mann, dont il a été question aujourd'hui, Les Affameurs, en votre compagnie, Laurent Van Heyl. Un grand merci d'être venu nous faire partager votre passion de l'art westernien, comme vous dites.
Merci.
Les auditeurs peuvent lire de vous deux ouvrages, un ouvrage collectif sur la philosophie du western aux presses universitaires de l'Université Saint-Louis. Et puis, va paraître bientôt Arpente l'image, vous en avez un peu parlé, essai sur le cinéma d'Anthony Mann, coécrit avec Natasha Pfeiffer aux presses universitaires du Septentrion. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo aujourd'hui, vous nous parlez de quelqu'un qui n'était sans doute pas le grand ami du western.
Sûrement à lire Prisme, critique de la culture et société, c'est de Théodore Adorno qui paraît à nouveau chez Payot. Philosophe de l'école de Francfort, sociologue et musicologue allemand majeur du XXe siècle, Adorno n'est pas le plus facile d'accès, mais on nous assure en quatrième de couverture que ce livre, Prisme, est l'un des meilleurs accès à son œuvre. Eh bien c'est vrai. Constitué de plusieurs textes, Adorno y développe sa critique de la culture en partant toujours d'une figure ou d'un phénomène du monde de l'art, de la littérature ou de la musique. Parmi les chouchous d'Adorno, pardon pour ce mot qui n'est pas du tout adornien mais qui me le rend proche, il y a Schoenberg et ce qu'il aime avec sa musique, c'est qu'il a su, nous dit-il, dès ses premières œuvres, déconcerter, décevoir même les attentes d'un public, je cite, pétri par l'industrie culturelle. Et c'est bien ce que refuse radicalement Adorno dans La Culture et ses productions, ce pétrissement du public, son avachissement, son conformisme. Dès les premières pages de ce livre, avant même de s'en prendre aux produits de cette culture de masse, il pointe le pire de ce système, celui qui s'en fait le défenseur théorique, le critique, le collectionneur expert ou le critique d'art. Pour Adorno, ce critique est celui qui, je cite, prétend s'élever théoriquement au-dessus du désastre régnant tout en participant à la culture, celui qui, je cite encore, ne se contente pas de se soumettre au principe de la vénalité marchande et de reproduire les catégories socialement prédominantes, mais s'adapte objectivement à l'ordre établi. Et en vient alors à décrédibiliser un artiste comme Schoenberg pour lui préférer un phénomène de masse.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out.
On peut dire que l'amour que porte Adorno à Schoenberg est égal au dégoût que provoque pour lui ce genre de musique, le jazz. Lire son texte mode intemporel à propos du jazz est à cet égard vraiment jouissif. Il ne mâche pas ses mots, il livre sans fard ni lâcheté son appréciation de cette musique qui n'a pas su, selon lui, en 40 ans se remettre en question ni remettre en question l'ordre musical. Et c'est bien là que réside le nœud de la critique d'Adorno de la culture, s'adapter à l'ordre établi comme le critique d'art, avoir des attentes comme le public et concernant les créateurs, ne jamais remettre en question les structures musicales déjà là, tout en se présentant, et c'est là le comble, comme anticonformiste, comme étant au-dessus de la masse. Entre l'être et l'apparence, Adorno pointe le décalage. La culture se présente peut-être comme libre, affranchie, mais elle reste, au fond, aliénée à l'ordre établi, aux catégories dominantes et à la vénalité marchande. Cette critique de la culture d'Adorno peut être séduisante, actuelle, percutante, mais elle me semble un peu problématique, car lui, comment fait-il pour critiquer la culture sans y participer? Comment fait-il, lui, pour échapper au feu de sa propre critique?
Dans les dernières années, l'intérêt du public pour les jeuneurs professionnels s'est notablement affaibli. Alors que rien n'était plus fructueux autrefois que d'organiser de grandes exhibitions de jeunes sous sa propre direction, aujourd'hui c'est devenu complètement impossible. Ah, c'était d'autres temps. À cette époque, toute la ville s'occupait du champion de jeunes. De jour de jeûne en jour de jeûne, l'intérêt du public croissait. Chacun voulait voir le jeûneur au moins une fois par jour. Sur la fin, certains abonnés passaient toute leur journée devant la petite cage.
À côté de la musique, Schoenberg, le jazz, mais aussi Bach, Adorno nous propose tout un ensemble de réflexions sur Benjamin, l'utopie d'Aldous Huxley, et puis sur Kafka. Vous lisiez l'auteur du procès comme l'écrivain du malaise, la condition aliénée, déjà vue, déjà connue de l'homme, eh bien vous aviez tort, nous dit Adorno. Mais pourquoi lui alors, Adorno, aurait-il mieux lu Kafka que nous? Aurait-il mieux écouté Bach ou le jazz que d'autres? C'est que, comme Adorno l'affirme à propos de Kafka, tout est sujet à interprétation et rien ne peut être arrêté, figé et encore moins par des critiques ou par une foule. La culture est dangereuse parce qu'elle arrête ses jugements et flatte un public et Adorno, lui, veut y résister, complètement la refuser. Il n'a peut-être pas raison dans ses goûts, mais il n'a au moins peut-être pas tort sur son geste.
Merci Géraldine. Alors le titre du livre d'Adorno, rappelez-le nous.
Prisme, critique de la culture et société, et ça paraît à nouveau aux éditions Payot.
C'est noté, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Maud Markiewicz qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, Isis Jourda, David Pargamin, Géraldine Mosna-Savoie, Milena Hellig et Olivier Bétard à la réalisation de cette semaine, Clément Daté à la prise de son, Georges Clès à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur le western. Demain, nous parlerons de La Poursuite Infernale de John Ford, My Darling Clementine, en compagnie de Cécile Gornet. D'ici là, pour écouter cette émission sur Les Affameurs d'Anthony Mann avec Laurent Van Eynde, c'est très simple, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, à l'heure et dans le pays de votre choix. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture. Thank you.